Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Robert Picton, a pink farmer.
Robert Picton, un fermier qui attirait des prostituées de Vancouver dans sa ferme. Il les emprisonnait, les torturait, les assassinait. Il les donnait à manger à ses cochons. Qui est le tueur en série le plus prolifique du Canada?
Most prolific serial killer.
Bonjour, le fermier Robert Picton est le plus grand tueur en série du Canada et l'un des plus importants de l'histoire du crime. Il a lui-même confié avoir tué 49 femmes, précisant qu'il avait pour objectif d'arriver au chiffre rond de 50 victimes. Des femmes qui ne réapparaissaient pas, leur corps était livré aux cochons. L'arrestation du fermier Picton va plonger les enquêteurs au cœur d'un film d'horreur. Le rôle principal étant tenu par un homme qui, pendant presque une dizaine d'années, a tranquillement assassiné des femmes, certes disparues, mais que personne ne recherchait vraiment, des prostituées, des marginales. Des dénonciations auraient dû attirer l'attention des autorités, mais celles-ci sont restées inertes. Quand elles sont allées voir ce qui se passait derrière les murs de cette ferme, il était déjà trop tard. Qui est ce tueur qui a agi en toute impunité pendant de si longues années? Comment a-t-il échappé si longtemps à la police? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire inouïe de Robert Picton, un fermier canadien qui va être présenté en 2002 comme l'un des pires tueurs en série jamais recensés. Une cinquantaine de femmes tuées. Il aurait pu être démasqué bien plus tôt. Voilà des années qu'il attirait l'attention. Samedi 22 mars 1997, une femme affolée, les habits en partie déchirés, menottée, couverte de sang, court sur une petite route de campagne à Port-Coquitlam, à une trentaine de kilomètres de Vancouver. Elle fait signe à une voiture. Les occupants croient à un accident. La femme a juste le temps de dire qu'elle a été poignardée au ventre et au buste. Elle s'évanouit. Une ambulance la conduit jusqu'au Royal Columbian Hospital à New Westminster où elle est opérée en urgence. Au même moment, un homme est admis aux urgences, lui aussi blessé. Il s'appelle Robert Picton. Il tient une grosse ferme, un élevage de cochons à Port-Coquitlam. Il s'est battu avec la femme. Sur lui, on trouve les clés des menottes. « Il a voulu me tuer. Je me suis défendu. Arrêtez-le, c'est un malade !» dit la femme. Picton dément, mais il est inculpé de tentative de meurtre et de séquestration. Poursuite vite abandonnée car la plaignante, toxicomane, n'est pas jugée crédible. Printemps 1999, la police de Vancouver est avertie qu'une prostituée dit avoir vu un corps nu de femme suspendu dans l'abattoir de la ferme Picton. Interrogée, elle se montre évasive, elle connaît bien Robert Picton et choisit de retirer ses propos. À la même époque, un homme qui travaille pour les Picton prévient la police que des vêtements féminins, des sacs à main, des papiers d'identité sont disséminés dans la ferme. Mais les policiers ne donnent pas suite à ce témoignage. Vendredi 1er février 2002, la gendarmerie royale du Canada est contactée par un certain Scott Chubb, chauffeur routier qui transporte du bétail. Il a travaillé pour la ferme Picton. Il déclare avoir vu sur place des armes, des fusils, des revolvers. Certaines de ces armes sont cachées dans une vieille caravane qui sert d'habitation et de bureau à Robert Picton, le propriétaire. Les gendarmes regardent le casier judiciaire de l'individu. Ils retrouvent l'agression au couteau en 1997 et plusieurs plaintes pour tapage nocturne. Avec son frère David, il avait mis sur pied une association de bienfaisance, la Piggy's Palace Good Time Society, qui organisait des bals géants dans la ferme, une clientèle de motards, de mauvais garçons, de prostituées, alcool, drogue et bagarre. Après 4 ans de débauche, la ville avait fermé le Piggy's Palace, le palais des cochons. Mardi 5 février au soir, 4 jours après la dénonciation, les gendarmes cernent la ferme. Les deux frères, David et Robert, sont interpellés. Mais seul le dernier est suspect. Dans sa caravane est retrouvé une arme non déclarée, un pistolet automatique sur lequel est attaché un sextoy. Robert Picton est arrêté, mais laissé libre, sous caution. Les gendarmes décident de fouiller de fond en comble les 6 hectares et demi de l'exploitation. Ils découvrent de nombreux vêtements et chaussures de femmes, des paires de menottes, des bijoux. Un inhalateur pour l'asthme est identifié comme appartenant à une certaine Serena Abosway, 29 ans, portée disparue en août 2001. Du sang prélevé dans la caravane est analysé comme étant celui de Mona Wilson, 26 ans, disparue, elle, il y a seulement 2 mois. Elles font partie d'une liste de 61 femmes qui se prostituaient à Vancouver et qui, depuis une vingtaine d'années, étaient portées disparues. Et cette fois, Robert Picton va devoir s'expliquer, non pas sur ces quelques armes non déclarées qu'on retrouve dans cette ferme, mais sur toutes ces femmes, des femmes disparues. On va voir le scénario épouvantable qui va alors se dessiner et ce que va déclarer surtout ce personnage dans la suite de l'heure du crime. Pour le moment, eh bien, il nous faut planter le décor. Et pour cela, on retrouve au Canada, justement, où il vit Stéphane Berthomé. Bonjour Stéphane Berthomé.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. On vous entend souvent dans notre émission, vous êtes ancien policier et aujourd'hui vous vivez au Canada, je viens de le dire, vous créez et réalisez des podcasts et je cite votre dernier podcast, c'est Contre-enquête et qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes d'écoute. Chaque jeudi, un nouvel épisode. Voilà pour votre travail instructif sur la justice et le crime, Stéphane Berthomé. Alors vous connaissez parfaitement cette histoire. Il y a cette ferme, finalement les policiers, les gendarmes, ils ont convenu qu'il fallait peut-être aller voir ce qui se passait derrière ces murs. Ça fait des années qu'on leur signale cet endroit, mais ils n'avaient pas bougé. Cette ferme qui est en train de devenir une immense scène de crime, c'est ça, on fouille partout.
Ah oui, réellement. Cette ferme, il faut l'imaginer comme une sorte de mélange entre une ferme traditionnelle, un ensemble de bâtisses assez imposants et un dépotoir. Faut le dire tel que c'est. C'est-à-dire que il y a un peu quand on regarde les photos de l'ensemble du terrain, parce que au départ c'était un terrain très très vaste qui a été vendu petit à petit à des promoteurs immobiliers. Quand on regarde l'ensemble du terrain, on voit bien que c'est une sorte de foutoir sur lequel il y a des bâtisses qui sont là. Et alors, dans ces bâtisses, il y a effectivement un élevage de cochons, mais il y a aussi, comme vous le disiez, des bâtisses que Picton a réservées à son usage personnel, et notamment celles, ces fameuses soirées dont on a du mal à qualifier le style.
Soirées musicales, ou enfin, en tout cas, on a le sentiment que là, il a tiré aussi des victimes. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues ici, des prostituées. Donc, effectivement, ça lui permettait aussi sans doute de sélectionner certaines de ses cibles. Eh bien, justement, Stéphane Berthomé, qui est ce Robert Picton, cet éleveur de cochons?
Alors, on le connaîtra très rapidement sous le nom du Pig Farmer Killer, hein, ou le boucher. Il est né en octobre 49. Il est considéré comme, et quand on va le connaître au cours du procès, comme un être plutôt socialement maladroit. On dit de lui qu'il agit un peu étrangement. Il vit seul dans sa ferme, sur une petite caravane. Il y a son frère qui est dans son entourage très proche. Ils ont créé ensemble cette œuvre de charité, entre guillemets, qui en fait...
Entre guillemets, oui.
À faire des fêtes de façon assez débridée. On comprend qu'il s'en sert à la fois pour faire du financement aussi, il fait des collectes de fonds. Voilà, c'est une personnalité qui vit un peu en marge, c'est quelqu'un qui ne se mélange pas, qui ne se mêle pas à la société. Faut dire qu'il est dans la région de Vancouver, hein, qui est une région extrêmement grande, extrêmement vaste, dont vous avez déjà parlé dans un épisode de l'autoroute des larmes, on se souvient de ça, parce que on n'est pas loin de cette situation-là.
Ouais, c'est une région propice finalement à la chose criminelle, puisqu'il est facile de s'y cacher, de s'y disparaître. Vous avez dit, c'est très très grand, c'est très vaste et pas forcément très habité. Alors, ce qui frappe tout de suite dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on l'a raté, Robert Picton. Pourquoi ? Peut-être par inertie ou pas envie de chercher ce qui se passait. Mais le fait est, c'est que cette arrestation, elle vient très très tard. Bonjour Kim Rosmo.
Hello, Mr. Richard.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime, parce que votre témoignage, il nous est très précieux. Vous êtes criminologue, spécialiste du profilage géographique. Ça, c'est une technique toute moderne. Et vous êtes ancien policier. Et à l'époque, vous êtes sur cette affaire. Vous êtes policier. Vous enquêtez sur cette affaire, en tout cas sur cet homme. Et vous avez signalé la présence d'un tueur en série dans cette région, notamment à cause de ces histoires de femmes qui disparaissent. Quand est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur ces disparitions?
Well,
J'ai été chargé d'examiner tous les signalements de personnes disparues. Ça concernait principalement des femmes en marge de la société qui fréquentaient les bas quartiers de Vancouver. C'étaient des prostituées qui ont tendance à être juste de passage. Elles n'avaient pas de famille. Des femmes qui pouvaient disparaître facilement sans que personne ne s'en aperçoive. On m'a donc demandé de faire un profilage géographique. Je me suis concentré sur les endroits où il y avait eu le plus d'incidents. J'ai regardé le nombre de femmes disparues sur 20 ans et je me suis dit qu'il y en avait beaucoup trop. Ce n'était pas normal. En regardant les faits, la seule conclusion plausible était qu'un tueur en série sévissait dans la région.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites, Kim Rossmo. Est-ce qu'on vous croit ou on ne vous croit pas ?
Eh bien, mon supérieur m'a cru. Mais à la brigade criminelle, personne n'était convaincu par mes conclusions. Il pensait que ces femmes étaient simplement parties. Ils avaient confié l'enquête à un débutant. Mais une enquête sur un tueur en série nécessite beaucoup de monde et d'argent. Vous savez, je pense qu'il y a eu pas moins de 13 meurtres entre le moment où Picton a été suspecté et le moment où il a été enfin arrêté. 13 meurtres qui auraient pu être évités.
Et oui, c'est ça qui est terrifiant. C'est qu'il y a plein de meurtres qui auraient pu être arrêtés, en tout cas on aurait pu les éviter, évidemment. Stéphane Berthomé, le moins qu'on puisse dire, et on vient d'entendre Kim Rossmo, c'est passionnant d'ailleurs ce qu'il raconte, c'est qu'on l'a raté, Picton. Il y a eu plein de signalements sur lui.
Oui, vous savez, il faut mesurer l'importance de ce que vient de dire Kim Rossmo. C'est très très rare au Canada qu'un policier dise publiquement qu'on a loupé une affaire, qu'on a manqué à une affaire. Je peux vous garantir que pour enquêter sur des dossiers depuis des années et documenter des dossiers judiciaires depuis des années, c'est une parole extrêmement rare que vous avez pu diffuser maintenant.
Elle est dans
Oui, on l'a raté. Et effectivement, Kim Rossmo le dit parce que c'est tout à fait fondé. C'est un des plus grands ratés policiers de l'époque du XXe siècle, clairement, plus d'une dizaine de meurtres qui auraient certainement pu être évités.
C'est ça, ce qui est énorme, parce qu'il y a toutes ces découvertes, Stéphane Berthomé, il y a des habits de femmes qu'on voit, il y a cette femme qui est suspendue, il y a ce témoignage, c'est hallucinant qu'on n'aille pas voir ce qui se passe derrière cette ferme.
Le plus frappant, c'est en 97, ce que vous avez raconté en introduction de l'histoire, cette femme qui vraisemblablement est une prostituée, qui est admise à l'hôpital, même hôpital dans lequel Picton est admis. On découvre dans les affaires, dans les poches de Picton, la clé, des menottes qui sont attachées au poignet de cette femme. Donc évidemment, on fait le lien, on l'accuse et on abandonne les charges, comme on dit au Canada quelques temps après, parce qu'on la considère comme un mauvais témoin en raison de sa dépendance aux drogues, en l'occurrence. Et ça, tout ça, c'est symptomatique justement de la problématique du système à l'époque. On n'accorde pas de confiance à la parole des gens qui sont pas, entre guillemets, socialement normaux.
Le fermier est arrêté, accusé pour le moment de 2 meurtres de femmes, mais d'autres vont suivre. Dans les jours qui suivent l'arrestation de Robert Picton, 2 têtes coupées en 2, verticalement placées dans un congélateur, sont retrouvées. Ce sont celles de Serena Abosue, 29 ans, et Andrea Joesbury, 22 ans, toutes deux disparues en 2001. La porcherie est explorée, le terrain retourné à la pelleteuse, des archéologues, des légistes participent à la campagne de fouilles. Après un mois de travail, la policière Catherine Galliford annonce « Soyons très clairs, l'enquête sur les femmes disparues n'est pas terminée, la fouille centimètre par centimètre de la ferme va continuer pendant des mois. Ce sont des restes d'autres prostituées disparues, 65 comptabilisées qui sont recherchées, des femmes qui avaient leurs habitudes dans le quartier chaud de Vancouver. Avec ces recherches, des familles sortent désormais de l'ombre pour demander des nouvelles. Wendy Lachance recherche sa cousine Marnie Frey, 24 ans, disparue depuis 5 ans. Elle a soudain cessé de venir, elle n'a plus téléphoné. Je veux savoir ce qui s'est passé, dit la jeune femme. Vendredi 22 février 2002, Robert Picton est interrogé par les enquêteurs. Il esquive les questions. Après 36 heures de dénégation, il est reconduit dans sa prison. Ici, il sympathise avec son co-détenu accusé de plusieurs viols et qui, comme lui, parle en argot. Le fermier ignore que cet homme est en fait un gendarme missionné pour lui soutirer des confidences. Au fil des jours, Picton se laisse aller à des révélations stupéfiantes. « J'ai tué 49 femmes. Je voulais en tuer une autre pour aller jusqu'à 50, car c'est un chiffre rond », confie-t-il au co-détenu. Il regrette de s'être fait prendre à cause de ses négligences. Il aurait dû se débarrasser des vêtements de ses victimes. Il est fier de ses crimes. « Je suis déjà une légende. T'as probablement entendu parler de moi à la télé ou dans les journaux. Tout le monde me connaît. Le putain de monde entier me connaît partout, jusqu'à Hong Kong. » Lundi 2 décembre 2002, Robert Picton, 53 ans, physique plutôt chétif, crâne dégarni, apparaît devant la cour de justice de Port Coquitlam pour une audience destinée à préparer un prochain procès. À ce moment-là, le fermier est accusé de 15 meurtres. Les découvertes ADN dans la ferme de l'horreur, le Piggy Palace, comme l'appelle la presse, ne sont pas terminées. Quelques mois plus tard, Robert Picton est inculpé au total de 26 meurtres de femmes, prostituées et toxicomanes pour la plupart, une liste qui pourrait faire de l'accusé le pire des tueurs en série du Canada. Et c'est tout un pays qui attend ce procès, qui va faire plonger les familles de victimes dans l'horreur. On va savoir pourquoi les corps n'ont jamais été retrouvés et l'issue funeste de ces malheureuses dans les tables aux cochons. On va parler de ce procès dans la suite de l'émission. Retournons une nouvelle fois dans cette ferme où la plupart des crimes ont sans doute été perpétrés. On vous retrouve Stéphane Berthomé, ancien policier, je le dis, créateur et réalisateur de podcasts. C'est vous. Vous habitez et vous vivez au Canada, vous connaissez bien cette affaire et vous connaissez bien les histoires criminelles. Vous avez un podcast qui s'appelle d'ailleurs Contre-enquête, que vous sortez chaque jeudi sur Internet et on les retrouve sur les réseaux sociaux, ces podcasts. On fouille centimètre par centimètre, dit une policière. On a presque du mal à y croire parce qu'elle dit « Ah mais non, mais les recherches, elles vont pas durer une semaine, deux semaines, elles vont durer des mois ».
Oui, c'est pas un euphémisme là, c'est pas une façon de parler, c'est pas une image. La police a utilisé du matériel lourd là, pour fouiller la propriété. Ils ont creusé, ils ont tamisé des centaines de milliers de mètres cubes du sol. Pourquoi ? Parce que on a bien compris qu'il allait être très difficile de trouver des corps, donc on cherche des traces résiduelles. Il faut dire que c'est probablement l'une des enquêtes qui a été la plus importante et la plus coûteuse de l'histoire du Canada. On l'estime à un peu plus de 70 millions de dollars.
70 millions de dollars canadiens ou américains?
Oui, canadiens.
Canadiens, donc canadien. Ça fait un peu moins quand même.
Oui, mais c'est déjà un montant assez colossal.
Mais c'est déjà un montant colossal. Il y a autre chose, Stéphane Berthomé, qui est passionnant dans cette affaire, c'est que là, il n'y a plus grand-chose de ces filles qui ont été tuées par Picton. On a retrouvé deux crânes, mais c'est tout parce qu'il n'a pas eu le temps de s'en débarrasser. Il n'y a que l'ADN qui peut jouer dans cette affaire.
Alors, effectivement, si on exclut le fait qu'on trouve quand même beaucoup d'éléments matériels, hein, on trouve des objets qui ont appartenu à des victimes, et c'est donc sur ces objets-là on va travailler avec l'ADN. Et oui, l'ADN est à ce moment-là clairement un des éléments clés. Vous l'avez dit, il y a aussi cette confession à un agent infiltré dans le cadre d'une opération qu'on appelle l'opération Mr. Big, qui est quand même essentielle à l'affaire, puisque c'est une reconnaissance de sa responsabilité, qui est reconnue à la cour.
Eh bien, alors un mot là-dessus, Stéphane Berthomé, parce que nous, en France, évidemment, on n'est pas habitué à ça. Vous n'allez pas mettre un gendarme anonyme dans une cellule pour faire parler le détenu, ça ne peut pas se faire. Là, effectivement, il y a cette ruse qui est employée par la police, il y a un gendarme, il va se confier. Il est très fier d'être un tueur en série Picton, lorsqu'on écoute cette confession.
Oui, cette opération, on l'appelle vraiment Mr. Big, là c'est le nom de l'opération, c'est-à-dire qu'on fait croire à quelqu'un, et on le fait aussi dans le cadre de la mafia, de motards, de choses, de crimes organisés, permet de faire croire à quelqu'un qu'il a affaire à un criminel. Et parfois on y met de très gros moyens à tel point que la justice a limité un petit peu l'accès à ce type de méthode, parce que ça poussait quasiment à faire des reconnaissances de crimes qui n'étaient pas tout à fait réels ou tout le temps réels. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, il est avec un co-détenu qui croit être un criminel lui aussi, et il se vante de ses crimes. Alors on joue bien sûr dans ces cas-là sur l'ego de ces criminels, et en particulier Picton qui semble en avoir un démesuré en la matière.
Oui, c'est ça. Il dit, je suis très très content, on me connaît partout, je suis devenu une star. Mais ça, je vous cache rien, Stéphane Berthomé, parce que vous les connaissez aussi bien que moi, c'est le propre des tueurs en série. Hein. Ils sont ravis de briller, à un moment donné.
C'est un des éléments clés, effectivement, de leur psychologie. Oui.
Kim Rosmo, alors vous êtes ancien policier, et vous nous avez dit que à l'époque, vous aviez alerté les autorités sur ces femmes qui disparaissaient. On vous avait demandé d'enquêter là-dessus, mais on vous a pas cru. Et effectivement, Picton, il a continué à prospérer dans ce décor canadien. Alors, il y a sa méthodologie à ce tueur en série. On a l'impression que les filles venaient le retrouver à la ferme. En tout cas, certaines prostituées survivantes ont raconté que, effectivement, elles venaient à cette ferme sur les lieux.
That is correct. I think
c'est exact.
Je
crois me souvenir qu'il avait dit que s'il se mettait en colère contre elle ou qu'elles essayaient de l'arnaquer, il les assassinerait. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui y allaient seuls et qui n'ont jamais rien eu. Donc il ne tuait pas toutes les prostituées qui se rendaient chez lui.
Alors effectivement, il y a des survivantes, il y en a qui vont raconter, même avoir vu des choses, etc. Mais après, une fois qu'il sera en prison, parce qu'il fait peur à tout le monde, ce Picton, ses victimes, Kim Rosmo, elles ont toutes quasiment le même profil.
Well, they're all women.
Eh bien, ce sont toutes des femmes. Environ la moitié était autochtone et l'autre moitié est blanche. C'était des prostituées toxicomanes qui travaillaient dans un quartier chaud de Vancouver, appelé le Low Track. C'était un quartier où les femmes étaient réellement en danger et plus susceptibles d'être victimes de crimes.
Stéphane Berthomé, on voit bien que les cibles, ce sont des marginales, et c'est assez facile parce que ces filles, on sait qu'on ne va pas forcément les rechercher. Les familles qui ont perdu quelqu'un et qui se sont manifestées sans doute à l'époque, qui sont allées voir le commissariat, jamais elles ont réussi à se faire entendre.
Non, et ça démontrait l'existence à l'époque d'un problème systémique hein, au sein des corps policiers qui était de quasiment faire une différence entre les bonnes et les mauvaises victimes, il faut le dire comme tout tel que c'était. Donc effectivement, il y a des familles qui ont signalé la disparition de gens, il y a des dossiers qui sont apparus et qui ont été laissés sur un coin de table pendant des années. C'est ce qui a creusé une frustration incroyable du côté des familles et ce qui a aussi contribué à l'émoi national hein, sur cette affaire, c'est que les gens, au fur et à mesure que le public découvrait des informations de ce type-là, évidemment, les gens étaient de plus en plus scandalisés et avaient de plus en plus d'intérêt pour cette affaire.
5 ans après son arrestation, le fermier va être jugé.
Les excuses ne changent rien. Ces femmes sont mortes. Si les victimes avaient été des étudiantes de bonne famille, les policiers auraient agi différemment. Mais puisque c'était des prostituées droguées, leurs dossiers ont été jetés et on n'en a plus parlé. Personne ne se souciait d'elles.
Lundi 22 janvier 2007, Robert Picton, 57 ans, chemise grise, cheveux longs, fait son apparition dans la petite salle du tribunal de New Westminster, à une vingtaine de kilomètres de Vancouver. Dès l'ouverture des débats, il se plonge dans un dossier bleu et prend des notes. Le procureur fait la liste des preuves découvertes dans la ferme aux cochons, des traces de sang qui ont livré des ADN ou encore ces deux crânes retrouvés dans le congélateur. Le fermier n'avait pas eu le temps de s'en débarrasser. Au fil des semaines et des mois, le Canada découvre l'itinéraire de cet homme qui, après avoir travaillé dans des abattoirs pendant 7 ans, a repris la ferme familiale. Il était, dira-t-il, à la recherche d'une femme avec qui il pouvait refaire sa vie à la ferme, mais aucune n'a voulu de lui. Fin juillet, après 6 mois de procès, le témoin numéro 97, Andrew Bellwood, glace les juges et les jurés. Il raconte qu'un soir de 1999, invité à dîner à la ferme, Robert Picton lui a raconté comment il tuait les prostituées. Il les bâillonnait, les menottait, les attachait, abusait d'elles, puis les étouffait ou les égorgeait. Il découpait ensuite les corps dans l'abattoir de la ferme, en donnait une partie aux cochons, le reste était mélangé à d'autres viandes animales et amené à une usine de reconditionnement, dit le témoin. Dès 2004, les autorités avaient enquêté sur les pâtés et les salaisons fabriqués par la ferme Picton et vendus à des particuliers sans trouver de traces de restes humains. Le témoignage de Bellwood, contesté par l'avocat de l'accusé, fait sensation. 9 décembre, après un an de procès, Robert Picton est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Et évidemment, on s'en doute, c'est un procès qui est extrêmement suivi au Canada. Stéphane Berthonnet, on vous retrouve, vous êtes en direct depuis, justement depuis le Canada où vous vivez, créateur et réalisateur de podcasts, donc contre-enquête et podcast criminel. Et vous êtes ancien policier, vous connaissez bien cette affaire Picton. Alors ce procès, effectivement, il fait la une dans les journaux du Canada. Mais Picton, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il va rester, à cause de ce dernier témoignage, comme l'homme qui donnait ses victimes aux cochons. On ne retient que ça de Picton.
Oui, c'est l'élément le plus sensationnaliste, évidemment, de cette affaire. Et vous savez que c'est ce qui souvent caractérise ces dossiers, hein, c'est le sensationnalisme. Et c'est ce qu'on retient, c'est ce qui frappe l'attention, c'est ce qui crée le débat, c'est ce qui choque. C'est vraiment ce qui marque ce dossier. C'est pas si surréaliste que ça, hein, puisqu'on sait que la mafia, notamment la mafia calabraise, par exemple, donnait certaines de ses victimes à manger aux cochons pour se débarrasser des corps. Donc c'est pas quelque chose qui a été complètement établi, mais c'est très vraisemblable en effet.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que vous le disiez, des corps entiers, on n'en retrouve pas, hein, des squelettes entiers, on retrouve quelques morceaux, et puis des affaires, mais c'est à peu près tout, Stéphane.
Exact. Exact. Il n'y aura pas de dépouilles complètes qui vont être retrouvées, ce qui va évidemment corroborer cette hypothèse des corps qui ont été donnés aux cochons.
Et Kim Rossmo, on vous retrouve, vous êtes ancien policier, criminologue, et vous connaissez bien cette affaire, puisqu'au début vous enquêtiez sur ces disparitions de femmes et qu'on ne vous croyait pas au sein de la police canadienne. Alors il y a ce très très long procès qui s'étend au Canada, parce que c'est comme aux États-Unis, c'est la même procédure, on refait toute l'enquête lors du procès. Qu'est-ce qu'on apprend sur le mode opératoire de Picton et peut-être sur sa personnalité ?
Il n'a jamais avoué, donc nous ne savons pas grand-chose de ses meurtres, malheureusement. Après son arrestation, il n'a jamais fourni d'aveu détaillé. Il a toujours nié. Je pense qu'on ne saura jamais vraiment quel était son mode opératoire.
Stéphane Berthomé, c'est compliqué avec Picton, hein, parce qu'il est toujours dans ses dénégations. Il n'y a pas moyen de le faire bouger.
Oui, c'est paradoxal en même temps parce que comme vous l'avez dit, comme on l'a expliqué, il s'est ouvert de façon très large sur son parcours criminel sans donner de détails évidemment, mais il a reconnu tout à fait les crimes aux policiers de la GRC qui avaient été infiltrés dans la cellule. Et pour autant, il ne reconnaît pas, il refuse de donner des détails sur les circonstances des crimes. Peut-être qu'il y a des choses qui seraient encore plus incriminantes. On pense au nombre de victimes. On sait aussi que comme il avait une ferme avec des porcs, il avait du matériel pour désosser, pour découper les animaux. Excusez-moi pour ce moment graphique là, mais c'est aussi une possibilité. On sait qu'il a pu utiliser son matériel pour se débarrasser des corps.
Oui, c'est ça. Et tout a été étudié et passé au peigne fin par les policiers. Mais effectivement, on n'a pas son scénario à lui, à Picton. On n'a pas ça dans ses paroles. Il n'y aura pas d'autre procès pour les autres meurtres. Et c'est un nouveau camouflet pour les familles des victimes. Mercredi 4 août 2010, 3 ans après la condamnation de Robert Picton, les procureurs de la couronne de Colombie-Britannique annoncent qu'il n'y aura pas de second procès. Selon la justice, un tel rendez-vous ne servirait à rien, le tueur en série ayant déjà été condamné à la peine maximale. Les familles des victimes se disent choquées par cette décision. Elles qui dénoncent depuis des années le laxisme des autorités dans cette affaire. Selon elles, Picton aurait pu facilement être arrêté plus tôt. Une dizaine de meurtres auraient pu être évités. Lundi 24 décembre 2012, l'enquête publique ouverte sur l'affaire Picton et le travail de la police et de la gendarmerie rend ses conclusions. Elles sont très sévères. Le rapport indique que le fait que les victimes aient été des prostituées, des marginales, a entraîné une certaine inertie chez les enquêteurs. Ils n'ont pas pris au sérieux ces disparitions, les ont même occultées. Si Picton avait choisi d'agresser des femmes d'un quartier riche de Vancouver, la réponse aurait été tout autre, indique le rapporteur qui affirme « Je conclus à des préjugés défavorables généralisés de la part des policiers. »
Et dans cette heure du crime, on retrouve Kim Rosmo, ancien policier, criminologue, qui connaît parfaitement cette affaire, puisque c'est lui qui, au début, c'est ce policier qui, au début, a enquêté sur ces femmes qui disparaissaient. Et je le répète tout le temps, on ne vous a pas cru, Kim Rosmo. Alors, il y a ce rapport qui fait le point sur le travail de la police et de la gendarmerie royale. Et il dit tout simplement que ces malheureuses victimes, eh bien, elles n'avaient strictement aucune importance pour les autorités.
Oh oui, c'est certain. Pour deux raisons. Premièrement, il ciblait des femmes qui ont plus de risques d'être agressées. Deuxièmement, elles n'avaient pas de famille ou de proches qui pouvaient alerter et se battre pour elles. Les victimes de Picton étaient des prostituées, toxicomanes, et la moitié étaient autochtones. Et certains policiers, je ne vise personne en particulier, mais certains policiers ne s'intéressaient pas à ces femmes-là. Elles n'étaient pas considérées comme importantes, alors que nous savons qu'une prostituée a 100 fois plus de chances d'être victime de meurtre qu'une femme lambda. Elles courent donc un danger énorme. On aurait dû leur prêter davantage attention. Enquêter dans ces groupes est très dur, mais nécessaire, car elles sont importantes.
Bien sûr. Et est-ce que là, justement, Kim Rosmo, encore une question, est-ce que la police a retenu la leçon de cette affaire? La police qui a tellement été critiquée, on l'a vraiment accusé avec, à travers cette commission.
C'est une très bonne question. La gendarmerie royale du Canada avait déjà fait des rapports détaillés sur ses manquements après l'affaire du tueur en série canadien Clifford Olsen, puis après l'affaire Bernardo Homolka. Mais je ne suis pas certain que ces rapports aient eu un réel impact. Ils apprennent de leurs erreurs localement, donc la police de Vancouver a compris certaines erreurs et a mis en place des choses pour prévenir. Mais est-ce que ça a vraiment changé les choses? Je pense qu'avec le temps, on oublie bien vite ce qu'il s'est passé. On oublie les échecs. Parce que c'est ce qu'était cette enquête. Un échec. Et ça pourrait arriver de nouveau ailleurs au Canada.
Je vous remercie pour votre franchise, Kim Rosmo. Stéphane Berthomé, vous aussi, vous êtes ancien policier et aujourd'hui vous faites des podcasts criminels. Alors, il y a quelque chose d'étonnant, j'ai lu en feuilletant ce dossier, c'est que on attendait un deuxième procès parce qu'il restait une vingtaine de victimes, il fallait juger ces cas. Et ce procès, non, on dit que ça servirait à rien, ça serait impensable en France.
Oui, en fait, on n'entrera pas dans les détails juridiques ce contexte-là. La couronne, donc l'équivalent du procureur, du parquet, a l'opportunité de décider si, un, les poursuites peuvent aboutir, et si, vous savez que conformément au système nord-américain, si on pense qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour peut-être arriver à une condamnation, on va avorter le procès, mais aussi de décider s'il y a une valeur à ajouter à ce procès. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre du débat de fond, parce que les familles des victimes ont déjà exprimé le fait qu'elles avaient été sous-estimées, les avait mises de côté, qu'on n'avait pas accordé suffisamment d'importance à leurs paroles. Et en prenant cette décision, qui est une décision au fond extrêmement rationnelle, je la cautionne pas, mais c'est comme ça qu'elle a été prise, en mesurant l'utilité de poursuivre une nouvelle fois Picton pour des faits qui vont le condamner à la même peine qui va être confondue avec celle qu'il a déjà, qui est la peine maximale. On contribue aussi à donner l'impression aux familles des victimes que leur parole n'a pas d'importance. Et ça, c'est vraiment, d'un point de vue de société, une réelle problématique. Ça a beaucoup, beaucoup causé de d'émoi.
Bien sûr, mais vous savez très bien aussi qu'un procès permet aussi d'apaiser, de faire le deuil, souvent. Donc, c'était pas inutile non plus d'avoir ce procès, même si la peine, on s'en doute, aurait été identique.
Absolument pas, et je penche pour le fait que la justice est aussi un moment qui est utile à l'expression d'une certaine vérité, même si elle n'entraîne pas toujours les conséquences voulues. Dans l'occurrence, certainement que ce procès aurait été bénéfique pour les familles des victimes. Je vous rappelle aussi les coûts énormes de cette enquête.
Pas faux.
Donc, y a aussi cet élément qui, de plus en plus, entre en ligne de compte, y compris en France. Les lois de programmation financière contribue à limiter certaines actions des policiers pour des raisons d'économie, et c'est peut-être aussi une des raisons qui a pu jouer dans cette affaire-là.
Début 2024, le fermier est déclaré libérable.
L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Jeudi 22 février 2024, Robert Picton, 75 ans, est déclaré apte à formuler une demande de semi-liberté. Il pourrait être autorisé à sortir en journée et retrouver le soir un foyer de réinsertion sociale. Les psychiatres considéreraient que l'homme, actuellement, n'est plus dangereux. Les familles de victimes restent toujours mobilisées. Elles ont déjà organisé des soirées de veille sur l'ancien site de la ferme de l'horreur, aujourd'hui détruite, afin que personne n'oublie.
I've been living in hell. It's...
J'ai vécu un véritable enfer. J'ai l'impression d'être dans un roman de Stephen King. Picton ne mérite pas de marcher sur la même terre que nous. Il ne mérite pas de sortir de prison. Il doit rester où il est jusqu'à sa mort.
Et cette voix, c'est celle de Michèle Pinault, la mère de Stephanie Lane. C'est une des victimes du fermier. Cette femme était à ces fameuses soirées où on allume des bougies à la mémoire de ses victimes sur le site de la ferme de l'horreur, encore une fois, qui n'existe plus parce que les autorités ne souhaitaient pas de visites morbides, comme cela arrive parfois dans les histoires de tueurs en série. On retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Stéphane Berthomé, ancien policier et créateur aujourd'hui de podcasts criminels qu'on peut retrouver sur Internet. Ça s'appelle Contre-enquête. Stéphane Berthomé, où en est-on avec Robert Picton? Est-ce qu'il est sorti de prison? Est-ce qu'il va sortir de prison? Est-ce qu'il ne sortira pas de prison? Vous voyez, ça fait trois questions en une.
Alors, je vais vous faire une réponse simple. Il est admissible à demander une libération conditionnelle, puisqu'il a purgé 25 ans de sa peine, comme le prévoit le code criminel, pour les condamnations au meurtre de deuxième degré. Mais il n'est pas libéré, à ma connaissance. J'ai fait quelques recherches très récemment, ces derniers jours, pour m'assurer. Il n'a pas été libéré, et je doute qu'il le soit, parce qu'il y a un passage de libération conditionnelle, un comité de libération conditionnelle, qui tient compte, justement, de la parole des victimes et des familles des victimes, et en l'occurrence, il y a lieu d'espérer quand même que cette parole soit entendue. Donc, compte tenu de la gravité de ces crimes, de l'atrocité de sa condamnation, et aussi d'un élément clé dans l'élément de la libération, c'est la reconnaissance des actes commis.
Ah oui.
Vous savez, c'est un petit côté judéo-chrétien. Pour obtenir une libération, il faut d'abord reconnaître sa faute. Et là, évidemment, on est loin du cas, on est loin du compte avec Picton. Donc, cet élément peut lui aussi, va lui aussi jouer pour en l'empêcher de sortir.
Oui, c'est exactement la même chose aux États-Unis. D'ailleurs, on doit faire acte de reconnaissance de ces crimes pour pouvoir être admis à sortir de prison. C'est une obligation, c'est comme ça que ça se passe. Stéphane Berthomé, vous parliez justement des familles. On entendait la voix de Michèle Pinault, c'est la maman de Stephanie Lane. Effectivement, c'est l'une des victimes emblématiques de cette histoire. Michèle Pinault, elle était à ce procès, on l'a vu beaucoup à la télé, dans les médias. Les années, elles n'ont pas du tout effacé la douleur des familles qui sont toujours là en train de dénoncer ces crimes.
Non, puis c'est quelque chose qui ne peut jamais s'effacer. Je suis souvent en contact et j'entretiens des relations continues avec des familles de victimes qui datent des années 80, des enfants qui ont été assassinés et ce sont des gens qui sont marqués à vie. Il y a quelque chose dans l'absence de compréhension de ce qui s'est passé pour leurs proches qui empêche quasiment la famille de faire son deuil.
Bien sûr.
Et c'est vraiment une absence de deuil. Il y a pour certaines familles, même il y a certaines familles qui, je me rappelle une maman d'un enfant assassiné qui m'avait dit moi tant que je ne saurai pas, mon deuil ne pourra même pas commencer. Donc on imagine dans quel drame se trouvent ces familles.
Mais vous avez tout à fait raison, Stéphane Berthomé, c'est très important ce que vous dites parce que effectivement dans cette histoire Picton, on sait que le sort de ces filles a été tragique et funeste et sûrement très très cruel, mais on connaît pas leurs dernières heures, savoir où elles ont été enlevées, comment ça s'est passé, on ne sait rien de tout ça.
Et paradoxalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris dans mon travail avec des familles de victimes, c'est que paradoxalement, c'est quelque chose qui permet aux familles de commencer à passer à un autre stade du deuil. Je me rappelle notamment de la maman d'un enfant qui est mort dans des circonstances terribles, qui voulait voir les photos de la scène de crime, ce qui moi me stressait beaucoup, mais qui considérait que c'était un bénéfice tristesse pour elle et que ça lui faisait du bien de comprendre enfin ce qui s'était passé. Alors, évidemment, c'est un choc émotionnel terrible, mais c'est vraiment une façon pour les familles de passer par-dessus et de commencer à comprendre et donc d'accepter un petit peu d'une certaine façon que leur proche est mort dans des conditions souvent terribles.
Kim Rossmo, je vais terminer cette émission avec vous. Vous nous faites l'honneur d'être dans l'heure du crime aujourd'hui, ancien policier. Vous avez été l'un des premiers à dénoncer ces crimes en série de femmes. On vous a pas entendu, on vous a pas écouté. Aujourd'hui, vous avez la franchise de dire que ça n'a pas marché cette histoire et que l'enquête elle a pas été faite dans les règles. Selon vous, la question elle est sur Picton. Est-ce qu'il est possible de libérer aujourd'hui le plus grand tueur en série du Canada?
Aucun psychologue ne peut réellement prédire ce qui va se passer s'il sort. Alors on lance les dés. Mais soyons honnêtes, les psychologues ne sont pas très bons à ce sujet. Robert Picton est très certainement un psychopathe. Et on ne guérit pas un psychopathe. Il y a des meurtriers qui ont été libérés alors qu'ils avaient une soixantaine d'années. Et ils ont recommencé à tuer. Donc c'est absurde de penser qu'il ne recommencera pas en sortant de prison. Il n'y a aucun moyen de le guérir. Il sera toujours un risque potentiel. Mais si ça arrive, je pense que ce serait une erreur. Et je ne connais aucun tueur en série au Canada qui ait été libéré. Ce serait une première.
Merci beaucoup Kim Rossmo et Stéphane Berthomé d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Priscille de Gueffier, traduction Bastien Robin, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.